Et voici une fenêtre radio, pas bien grande cette fenêtre. Quelques minutes pour vous faire entendre et respirer le Finistère sur les ondes de transistor. Une petite fenêtre, un œil de bœuf, ça fait un peu peur. Un soupirail alors ? Un peu triste. Appelons-la le hublot, et même quand on sera loin de la mer.
Bonjour ou rebonjour et bienvenue dans un hublot tout en art. Il y aura d'abord du spectacle vivant, puis du cinéma et des arts littéraires. Iceberg, c'est le nom du nouveau spectacle que présente la compagnie Loisellerie, qui est installée à Comana. Son fondateur, Mayol Loisel, est venu avec sa complice Naya Etchegaray nous présenter leur nouveau spectacle Iceberg. Bonjour.
Ben oui, bonjour.
Et merci d'être là pour nous présenter ce nouveau spectacle de la compagnie Loisellerie, qui est donc un spectacle de contes et de musique. Alors Mayol, la compagnie Loisellerie ne faisait pas spécialement de contes ou n'était pas tellement coutumière de ce type d'art aussi ?
Non, pas forcément d'ailleurs, c'était plutôt musical. La musique est beaucoup basée sur le visuel, sur le mouvement, sur le corporel. Mais voilà, c'est vrai que... Enfin, c'est vrai, j'ai rencontré Naya... au sein d'Hadès Bottmer lors d'un spectacle qu'elle faisait. Et j'ai eu l'envie, l'idée de lui proposer ce duo, cette rencontre, qui mêlerait justement le conte et la musique en direct.
Et qui s'appelle donc Iceberg. Alors d'où ça vient ce titre ou cette idée en période de réchauffement climatique, Naya ?
Eh bien, c'est pas forcément lié à l'environnement. C'est que l'idée d'un iceberg... qui font, c'est l'idée aussi de l'éphémère que l'on peut donc rapporter à la condition humaine. C'est un spectacle qui va aussi beaucoup parler de ça, des thématiques en lien avec la mort, l'amour, le deuil, la poésie, la création, mais aussi la liberté. Et cette image de l'iceberg, plus qu'une image écologique, bien que ça nous tienne à cœur, c'est l'image de quelque chose de très grand qui va être amené eh bien, à subir ou à répondre au fil des âges, en fait, au temps qui passe. C'est ça, à vieillir et à divaguer dans l'océan. Il va rencontrer plusieurs personnages et eh bien... La suite.
Oui, c'est parce qu'il voyage aussi, un iceberg, c'est son intérêt.
C'est ça, voilà, il dérive et on ne sait pas, il n'a pas vraiment de but, il dérive seulement. Voilà. Et voilà, et c'est ce côté éphémère-là qu'on veut retrouver. Voilà, c'est le côté éphémère de la vie, de la condition humaine, de tout ce qui existe sur cette terre.
Donc je comprends, Naya, que c'est vous qui avez écrit plutôt le texte, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Oui, tout le texte, je l'ai écrit et la musique a été composée par Mayol entièrement.
Il y a aussi la nécessité avec... là, il y a cinq comment dire, petites histoires qui sont dans ce grand spectacle d'une heure. Mais il fallait les relier. Donc voilà, on a trouvé des liens, des passerelles, justement avec l'image de ce glaçon, de cet iceberg qui dérive et qui se transforme petit à petit. Donc voilà, il y a un lien quand même... une sorte de décor quoi, qui relie tout ça. Et après, la musique, elle se fait, comment dire, c'est une sorte d'expérimentation, ça se fait en direct, il faut que j'entende.
Sur scène, quoi.
Ouais. Sur scène, enfin, sur scène. Dans l'atelier, oui, là où on répète.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'il faut que j'entende, pour moi, musicien, il faut que j'entende la voix, il faut que j'entende le rythme de la parole, comment la parole se place, pour faire une musique qui n'est pas détaché, mais qui est ensemble, en fait, qui fait partie et qui complète. Et donc, c'est vraiment un soutien de la parole. Et là, c'est vrai que j'utilise le violon, qui est mon instrument principal, mais il y a aussi les percussions, le grand daf, qui est un tambour sur cadre de 60 cm, donc qui a aussi un côté plus ancestral dans le son, dans le sonore.
Qui fait conteur, quoi, pour le coup, parce que le conte, c'est quand même ancestral, n'est-ce pas ?
C'est ça, à sa manière.
Comme c'est mis en scène aussi par Mayol, comment vous avez conçu le... Il y a des déplacements, Naya, elle se déplace, de ce que j'en ai vu en tout cas, du peu que j'en ai vu.
Oui, tout à fait. Dans la compagnie, dans Loisellerie, il y a toujours une importance énorme donnée à l'image. Il y a l'image en mouvement, donc là il y a un gros travail sur la scénographie. On a un grand tableau noir de 3 mètres sur 3, sur lequel on vient dessiner... Allô. Ça marche très bien et ça s'efface très bien aussi. Ça, voilà, c'est encore comme une parole qui est dite et qui s'en va, qui n'est pas enregistré, comme aujourd'hui. Mais voilà, tout s'efface. C'est un spectacle qui est touchant, du coup. C'est vrai que les gens sont touchés.
Et pour quel type de cadre est-il idéal, finalement ? C'est plutôt pour des petites salles, j'imagine. Enfin, qu'est-ce qui vous plaît le plus pour ce genre de spectacle ? C'est pas une grosse salle, quoi. Enfin, on est d'accord. Au fond d'une grande scène, ça aurait peut-être pas beaucoup de sens, quoi.
J'ai envie de dire que tout est possible. Nous, on a envie de le jouer pour des écoles, pour des médiathèques, mais aussi pour des théâtres. Et quand bien même on rentre dans un très beau théâtre, parce qu'il y a toute une création lumière aussi qui est faite avec Maud Raymond, on essaie de travailler en proximité. Donc on ne met pas le public à 20 mètres, mais on le met vraiment proche de nous, tout de suite là, à 2-3 mètres autour de l'espace. Même si on prend finalement avec ce grand panneau pas mal de place. Voilà, c'est ça, cette envie de proximité avec le public. Donc c'est bien un spectacle tout public, plutôt à partir de 8 ans, pour que les plus petits auraient plus de mal à tenir l'attention et à s'y retrouver. Mais oui, ça concerne...
C'est majoritairement, d'ailleurs, il a été créé pour les adultes et adolescents, parce que ce qu'on va aborder dans ce spectacle, eh bien, c'est justement des questionnements assez existentiel que les adultes et les adolescents se posent plus parce que ils ont peut-être perdu cette innocence enfantine qui nous fait vivre simplement.
Oui. Donc, c'est un conte philosophique, comme tous les contes d'ailleurs.
Oui, c'est ça. C'est plus philosophique qu'un conte qui prête par exemple à rire ou à s'amuser.
L'iceberg dodelinait joyeusement sur les flots de l'océan.
Le spectacle de la compagnie Loisellerie Iceberg. On peut le découvrir les jeudis 2 et vendredi 3 avril à 20h à la salle des fêtes de Comana. On quitte la scène, les arts du conte, et on se tourne vers le 7e art avec du cinéma de science-fiction. C'est l'animateur de notre émission, vous reprendrez bien un peu de SF, Rémi Toularastel, qui est entré pour nous dans la salle obscure.
Projet Dernière Chance. Tiré du livre du même nom que le doit à Andy Weir, qui a écrit également Seul sur Mars, adapté lui par Ridley Scott. Autant dire que ce pédigré donnait vraiment envie. Alors, autant vous dire, j'attendais ce film de pied ferme. Le duo de réalisateurs, que je ne connais que très peu, a à son actif quelques films, pas mal, comme La Grande Aventure Lego, et d'autres, il y a l'adaptation de la série 21 Jump Street, Potache et Bas de Plafond, à oublier. De quoi laisser dubitatif. L'histoire ? Un homme se réveille amnésique à bord d'un vaisseau. Peu à peu, la mémoire lui revient. On apprend rapidement qu'il est prof de physique dans un collège et qu'il participe à une mission qui doit sauver le Soleil et par conséquent la vie sur Terre. On va suivre son cheminement dans son raisonnement scientifique pour parvenir, peut-être, à trouver la cause du mal qui affecte le Soleil. Je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire pour vous préserver un maximum de surprises. Les différentes bandes annonces ont défloré généreusement l'intrigue et quelques rebondissements. Je vous conseille de ne pas les voir si ce n'est pas encore fait. Depuis quelques temps, les bandes annonces ont tendance à dévoiler plus que nécessaire et ainsi gâchent l'effet de surprise. Peut-être pour appâter un maximum de monde, mais à quel prix ? Tant que j'y suis, n'allez pas voir la bande annonce de Dune 3. Elle divulgâche salement un film pourtant prometteur. Fin du coup de gueule. Bon alors, projet Dernière Chance, j'en ai pensé quoi ? Il est plutôt pas mal. Le système des flashbacks qui construisent l'histoire au fur et à mesure n'est pas trop intrusif ni trop pesant. Le personnage de professeur interprété par Ryan Gosling attire la sympathie. Intelligent, posé, mais douloureusement seul. Pas de famille, ni au banc de la communauté scientifique, il a un peu de mal avec les autres. Mais une fois plongé dans la science, c'est un tout autre homme, il est dans son élément. On retrouve un peu ce côté art SF que l'on découvrait dans Seul sur Mars. Le vaisseau est magnifique, son poste de pilotage, c'est du petit lait pour les amateurs du genre. Techniquement, il n'y a rien à dire, c'est beau et bien fait. Malgré une énorme révélation dans le dernier acte, ce dernier est cousu de fil blanc. L'humour est très présent sans pour autant être lourdingue. Bref, j'ai passé un moment pas si mal.
On termine avec les arts littéraires dans la voix d'une comédienne qui vous est familière sans doute, Geneviève Robin. Elle vient souvent nous lire des textes qu'elle choisit elle-même.
Extrait du roman de Chantal Thomas, qui a pour titre « Le besoin de lire ». Dans la collection « Fiction et compagnie », son roman a pour titre « Café vivre, chroniques en passant ». Sous l'Ancien Régime, la personne en charge du domaine des arts, c'est-à-dire essentiellement de l'opéra, de la danse, du théâtre et des expositions de peinture, était nommé l'intendant des menus plaisirs. Ainsi, le maréchal de Richelieu, 1696-1788, héros de la vie légère et grand ennemi de la souffrance, occupa longtemps ce poste dont il retira tous les avantages possibles. Intendant des menus plaisirs. La formule peut faire sourire, tant elle est révélatrice d'un système de gouvernement dans lequel les artistes et la culture ne valent que sous l'angle du divertissement, les œuvres étant considérées comme des éléments décoratifs de l'existence, le prétexte à quelques moments agréables, vite oubliés. En revanche, le titre actuel, beaucoup plus sérieux, de ministre de la culture et de la communication, ne donne aucune prise, à aucune suspicion quant au respect accordé à ce domaine dans un esprit républicain et particulièrement en France. Ne pas lire est, hélas, à l'ordre du jour, et ce n'est pas pour rien que Philip Roth désigne les vrais lecteurs comme une catégorie en voie d'extinction, comme des survivances ou des fantômes d'une époque disparue. En effet, tout notre mode de vie, le rythme pressé et chaotique, la domination de l'image, l'obsession du téléphone mobile avec son registre incessant d'interruptions et de distractions, est ennemi de la lecture, et va à l'encontre de ce temps illimité, rêveur, de cet étrange voyage immobile auquel elle invite. Par un déclic magique, celui ou celle qui lit échappe au contexte immédiat, se soustrait à l'emprise du dehors, de la réponse exigée, de l'obligation soi-disant urgente, et même peut réussir à s'abstraire de l'angoisse d'une attente ou de la prison de la douleur. Quelques mots, quelques phrases, et si le charme opère, le lecteur se trouve transporté ailleurs, qu'il s'agisse d'un univers romanesque, de la plongée dans un monde différent ou de l'approche intellectuelle de nouvelles idées et de la chance d'enrichir sa vision. Un des traits du charme opéré par le livre est qu'il agit secrètement, loin du bruit. Comme l'écrit le père franciscain, philosophe et grand érudit Giovanni Pozzi, « Au silence appartient le livre, dépôt de la mémoire, antidote au chaos de l'oubli. » Lieu où gît une parole qui toujours veille, prête à venir silencieusement rencontrer quiconque la sollicite. Je suis toujours sensible quand je visite un musée à l'ancienneté, à l'abondance d'une tradition picturale si encline à représenter une femme en train de lire. Ces femmes assises à une fenêtre ou dans un jardin, un livre à la main, n'ont pas eu à se battre pour obtenir ce temps de lecture. Le silence et le retrait du livre constituent leur élément. Ce serait plutôt contre l'ennui d'une vie trop tranquille qu'elle sollicite le pouvoir de la lecture.
Et on referme ce hublot artistique, mais on laisse place à l'art des harmonies et des notes, la musique de Transistor.